Alors bonjour à tous. Merci Jean-Luc pour l'invitation. Merci aussi à vous tous. Et voilà, c'est vraiment un plaisir, c'est un honneur. Et Jean-Luc vient de temps en temps à la maison, enfin à l'église maintenant. Voilà, donc on a débuté dans une église de maison sur Salomine. Et puis, bon, quelquefois on était 50, 60. Dans notre salon, on fait à peu près 30 mètres carrés. Donc on s'est dit, on va élargir l'espace de, de la tente. Et du coup, on est dans une salle à Liévin. Voilà, donc on s'implante, quoi. On sait qu'il y a une église à l'autre bout de la ville, une ADD. Et puis voilà, maintenant il faut qu'on trouve des gens autour de Liévin. On a des gens qui viennent d'un peu partout. Parfois même de Belgique, il y en avait qui venaient de Menin, d'Aluin, il y en a qui viennent de Bouzbek. Voilà. Et on passe des très bons moments ensemble et voilà, on est heureux de aussi de temps en temps de collaborer avec Jean-Luc, que j'apprécie énormément et que j'ai rencontré à l'église de Sente, c'est ça ? Entre autres, ouais. Au barbecue géant, enfin bon, on a connecté. Et j'aime énormément Jean-Luc. Voilà, Jean-Luc et Annette. Et alors, on avait dit témoignage, parce que du coup, moi, j'avais préparé un petit message, mais je vais vous faire un peu mon témoignage, et quelques minutes, et puis après, voilà, donc je m'appelle Samuel, et j'ai grandi, je suis issu, en fait, d'une famille de témoins de Jéhovah. Je ne sais pas si vous connaissez les témoins de Jojo. Et donc les témoins de Jéhovah, bon, c'est une secte, hein, je le dis voilà, clairement. Et tu grandis chez les témoins de Jéhovah avec la peur de l'Armageddon. Voilà, donc toute secte, voilà, quand tu es dans une secte, forcément il y a une emprise de la manipulation, souvent par la peur. Donc si tu désobéis à tes parents, tu vas être détruit. Et tu grandis comme ça, avec cette pensée-là. Alors vaut mieux être sage. Seulement quand tu es enfant, ça te crée des troubles vraiment profonds. Et dès petit, j'étais vraiment un angoissé. J'étais vraiment un angoissé. Et j'avais peur de la mort et... Et j'avais des idées suicidaires, ouais, tout petit, des idées suicidaires. Donc, un cri d'orphelin. Je me souviens, je mettais de la super glue dans mes yeux. je cherchais, en fait, l'approbation, l'amour du père, en fait. Et seulement, autant les témoins de Jéhovah sont rustres, c'est rigide, hein, aussi rigide que la religiosité, autant mon père a l'image... des témoins de Jéhovah était rigide en fait. Et voilà, je suis arrivé en âge de me défendre. Mon papa était quand même assez violent. Je suis arrivé en âge de me défendre et j'ai levé les poings en fait contre mon père. J'ai levé les poings contre mon père. Je haïssais Dieu du plus profond de mon cœur. Et je me rappelle, j'étais souvent puni dans ma chambre. Et j'injuriais Dieu vraiment de tous les noms. Je détestais ce Dieu-là, en fait. Ce Dieu psychorigide. Et je suis arrivé en âge de me défendre. Et là, j'ai frappé sur mon père. Alors, j'avais des bagues un peu comme là. Et je me souviens, le premier coup, il était sur son lit et... En fait, j'ai eu l'impression de me frapper moi-même. C'est quand mon poing a touché la tête de mon père, j'ai senti une déchirure profonde en fait dans mon cœur. Et mon père a pissé le sang. Et puis voilà, ça a été un temps comme ça où on se battait, où la police venait à la maison régulièrement. Et j'étais déjà dans cette quête de liberté en fait. Je voulais être libre. Chez les témoins de Jéhovah, on ne peut pas être libre. On ne fête pas les anniversaires, on ne fête rien. On reste à la maison, on ne peut pas avoir d'amis extérieurs. Donc j'avais soif de liberté. Et mon seul moyen de saisir cette liberté, c'était de me rebeller, quoi. Et le jour où je suis parti de chez moi, ça a fini en bagarre, pareil, et j'ai poussé mon papa. Il a valdingué sur 3-4 mètres en arrière. Il y avait une espèce de barre dans la cuisine, un peu comme là. Et donc, il s'est pris le barre dans le dos, il est tombé à terre. Il est encore cotorep aujourd'hui, handicapé. Et je suis parti, c'était le soir, et je suis parti. Je suis plus jamais revenu, en fait. Donc, c'était le début de ma vie d'errance, une vie d'errance. Et j'étais déchiré. Et puis là, j'ai saisi cette liberté que je désirais tant. Alors, j'ai vécu en colocation. J'aurais pu être à la rue. Heureusement, j'avais des potes sympas. Et puis, j'étais assez filou pour m'incruster par-ci, par-là. Donc, bon, il y a eu les copines, le premier joint, le premier verre. Et c'était une spirale infernale. Toujours dans cette quête de bonheur, parce que je pense qu'on souhaite toujours être heureux, même quand on est malheureux, violent, colérique. Et voilà, j'étais dans cette quête de bonheur. Et j'ai une copine, une vraie, enfin une fille que j'aimais, enfin une fille que j'aimais. Vous allez comprendre. Voilà, donc je pensais trouver mon bonheur, hein. J'avais 25 ans, j'avais eu déjà pas mal de petites copines, hein, mais celle-ci je l'aimais beaucoup. Et ouais, c'était compliqué dans ma tête, j'avais plein de pensées qui m'assaillaient. J'avais de l'ultra-violence en moi, beaucoup de haine, beaucoup de colère, et j'étais infidèle en fait, donc je la trompais tout le temps, c'était ma vie, c'était ma routine. Et puis les pensées comme ça ont commencé à m'assaillir. Bon, j'étais pas tout seul, hein. Je sais pas encore, je connaissais pas le monde spirituel, mais j'étais clairement pas tout seul. Et puis les pensées devenaient tellement intenses, je voulais vraiment en finir avec la vie. Et bon, ben, j'ai été voir un peu tout ce qui est les hypnotiseurs. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Les médecines d'aujourd'hui, quoi. La sophrologie. Toutes ces médecines-là, un peu spirituelles. Et ça n'a fait qu'empirer. Je me souviens, l'hypnose, ça marche vraiment. J'ai été hypnotisé. C'est assez bizarre. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne pas forcément dans le bon sens du terme. En tout cas, j'ai été plongé dans les ténèbres les plus sombres au moment de mon hypnose. Mes mains se sont raidies, vraiment. Et puis, je suis sorti avec les mains comme ça. Bon, j'ai donné quand même un billet de 50 balles. Hein. Nous, on donne gratuitement. Bon, il y en a qui ont besoin d'argent. Et avec un deuxième rendez-vous à la clé, j'aurais pu vite dilapider mon argent dans tout ça. Heureusement que j'avais pas trop d'argent, hein. J'étais un drogué, donc mon argent passait plus dans la drogue que dans l'hypnose. Et ce moment-là, c'était un moment clé, parce que depuis cette hypnose, j'ai sombré dans une dépression totale. C'était à l'aube de mes 29 ans, et j'ai été voir un psychiatre, en fait, qui m'a prescrit des médicaments. Donc je suis tombé dans la marmite du Temesta, des antidépresseurs, tout ça. Et au début, on commence par une moitié de pilule qui nous assomme. Et puis on finit par 7 pilules par jour. Et voilà. Et puis jusqu'à un soir où cocktail Molotov qui décoiffe. Donc Temesta plus alcool plus drogue. Eh bien, j'ai pété un câble. J'ai confessé à ma copine toutes les fois où je l'ai trompée. Enfin, elle m'a quitté. Mais je me souviens plus de ça. J'étais dans un trou noir. J'ai tenté de me suicider puisqu'elle me quittait. Donc j'ai tenté de me suicider. J'ai pris ma plaquette de médicaments. Je les ai avalés avec de l'eau de Javel. Et je me suis réveillé à l'hôpital quelques jours plus tard. Et j'ai constaté que mes orteils bougeaient encore. Je me suis dit, mince, je vais rater mon coup. J'étais vraiment, vraiment déçu d'avoir raté mon coup, les amis. Je voulais en finir avec la vie. J'en avais fait beaucoup des appels au secours, mais cette fois-ci, ce n'était pas un appel au secours. Je voulais en finir avec, avec la vie. Et j'étais plutôt déçu d'être resté. S'en est suivi deux autres grosses tentatives de suicide. Des Temesta, 40 Temesta à 2,5. Je ne sais pas si vous imaginez un peu ce que ça représente. Voilà, en tout cas, je suis resté dans le coma pendant plus de deux semaines. Et puis, bon, la mort n'a pas voulu de moi. Enfin, plutôt, la mort voulait de moi. La vie n'a pas permis que je parte. Et là, je me suis dit, je vais chercher la vraie religion. Alors, je suis entré dans cette quête-là. Mais alors, comme j'étais né chez les Témoins de Jéhovah, vous savez, on te bourre le crâne, hein, c'est à coup de marteau. Hein. On grandit dans la vérité, les Témoins de Jéhovah, c'est la vérité. Donc, comme un enfant, hein, comme un musulman, par exemple, hein, qui grandit dans la tradition de ses parents, il n'y a pas de raison de penser qu'il n'est pas dans la vérité. Donc, j'étais convaincu que les Témoins de Jéhovah étaient la vérité. Seulement, le cheminement a été que peut-être j'avais été influencé justement par mon enfance. Alors j'ai appelé mon papa, je lui ai dit « Papa, je vais revenir chez les Témoins de Jéhovah, mais je vais quand même regarder ailleurs, parce que je veux vraiment savoir où est la vérité. » Bon, il en a pleuré, il était heureux. Et puis j'ai regardé du côté de l'islam, et j'ai fait un peu le tour des religions. Et non, je sais pas, il n'y a rien trop qui m'intéressait. Et bon, j'ai rencontré une fille qui était jolie, plutôt jolie. C'était pas Christelle. Pas encore. ouais, Christelle est beaucoup plus jolie, bien sûr. Mais bon, elle me parlait de Jésus et du coup, ben, comme elle était jolie, je l'ai écoutée. Et bon, mon idée, c'était un peu à l'image de mes parents, de me trouver une bonne fille religieuse avec qui je pourrais me marier, avoir des enfants. Enfin, le schéma, voilà, ce qui me semblait bon, quoi. Et puis, elle m'a invité à Gap, elle habitait loin. Et elle m'a invité dans une église, une ADD. Je suis entré dedans. Il y avait des frères et sœurs qui priaient. Il y en a qui priaient en langue. C'est bizarre. Et non, vraiment, ça m'a énervé. J'avais envie de défoncer le pasteur. Je suis sorti, j'ai roulé mon gros joint. Je voulais aussi montrer combien j'étais rebelle et leur prouver qu'ils avaient tort. Donc la fille a passé un sale quart d'heure après la réunion. Et puis j'ai tellement culpabilisé que le lendemain, j'ai accepté d'aller dans cette réunion de prière, donc dans une église de maison qui était liée à cette église. Et là-bas, les gens avaient peur de me parler de Jésus. Bon, j'avais pas la même tête qu'aujourd'hui. J'avais le front un peu plissé, j'avais des pics un peu sur les yeux, des boucles d'oreilles, des pins un peu partout. N'ayez pas peur de parler aux gens, les amis, peu importe l'attitude, le physique, faut y aller. Et au fond de moi, j'aspirais en fait à ce qu'on me parle de Dieu. J'aspirais à ce qu'on parle de lui. Et bon, on m'a plutôt parlé du LOSC. Voilà, l'équipe de foot. Alors, du coup, je continue mon histoire. Il y a un couple d'anglais qui était dans cette réunion. C'était les hôtes, en fait, de la maison. Et quand je suis parti en fait de cette réunion, ils m'ont juste démontré de l'amour et ils m'ont dit en toute simplicité « Au revoir Samuel ». Alors ce Samuel-là a sonné comme une louange dans mon cœur, comprenez ? Un Samuel avec le Saint-Esprit, waouh, ça m'a vraiment touché et j'ai vu là de l'amour en fait. J'ai vu là de l'amour et ça m'a vraiment interpellé. Alors je suis rentré à la maison et d'abord, il fallait que je comprenne que les Témoins de Jéhovah n'étaient pas la vérité. Alors j'ai vu une vidéo sur YouTube où on voit dedans les images subliminales. Vous savez qu'il y a dans les périodiques là, des Témoins de Jéhovah. Et j'ai vu des choses affreuses, d'ordre même sexuel. Et c'est comme si le voile a été ôté en un instant. 29 ans de ma vie qui est tombé comme un château de cartes. Pourtant, j'étais plus chez eux depuis 12 ans. J'avais quitté les témoins de Jéhovah depuis 12 ans. J'étais toxicomane depuis 12 ans. Mais ce jour-là, alors que j'étais, malgré le fait que j'étais sorti des témoins de Jéhovah, les témoins de Jéhovah n'étaient pas sortis de moi, vous comprenez ? Donc ce jour-là, waouh, c'était vraiment une joie, quoi. Hein, j'ai appelé mon papa. « Papa, faut sortir de là ! C'est une secte ! Sortez !» Sauf que moi, j'avais reçu une révélation, pas eux. Alors je l'ai plutôt endurci qu'autre chose. Et là, j'étais prêt à découvrir qui était ce Jésus. Parce que chez les témoins de Jéhovah, Jésus, c'est l'ange Gabriel. C'est vrai en plus, hein. C'est l'ange Gabriel. Donc, j'ai ouvert ma Bible et j'ai commencé à lire le livre de Jean. Et là, je découvrais l'amour de Jésus. Incroyable. Moi qui avais cette image d'un Dieu sévère, d'un père fouettard, d'un Dieu en colère, je découvrais le cœur de Jésus. Et je me disais, mais c'est incroyable. J'avais lu ma Bible quand j'étais jeune. Enfin, la Bible des témoins de Jéhovah qui est... Brûlez-la, ne la gardez pas chez vous, elle est trafiquée, modifiée. On a ôté des passages, on en a rajouté d'autres. On a mis Jéhovah à la place de Seigneur quand on parle de Jésus. Enfin, bon, bref. C'est vraiment difficile d'avoir des révélations. Enfin, Dieu peut tout, hein. Mais au travers de la Bible des témoins de Jéhovah. Et là, je réalisais, enfin, c'est comme si je voyais l'amour de Jésus. Donc Jésus qui s'abaisse pour embrasser notre humanité. Jésus qui meurt à la croix pour moi, Samuel. Jésus qui touche les personnes lépreuses. Moi, les SDF, je ne les calculais pas trop dans ma rue. Jésus qui s'abaisse, qui touche les personnes lépreuses, qui n'a pas peur d'être contaminé par le Covid. Il n'a pas peur d'être contaminé par la lèpre. Au contraire, c'est lui qui contamine de sa sainteté. Je découvre un Jésus exceptionnel. Mais bon, j'ai besoin de vivre quelque chose de surnaturel. Alors, parce que ma vie ne change pas vraiment, si ce n'est une paix que je ressens en lisant les évangiles. Et je suis invité en Champagne-Ardenne, donc à Jeunesse en Mission. Je suis invité là-bas. Et du coup, je découvre qu'il y a plein de jeunes qui pratiquent l'évangile, qui aiment Jésus. Je suis surpris parce que moi, je me dis que la religion, c'est pour les vieux. Enfin, c'est le cheminement, c'est ce qui se passe dans ma tête, quoi. Et je me dis, ouais, c'est incroyable ça. Et je me sens bien là-bas, je me sens bien. Et puis on me dit, ouais, il faut que tu restes, on te paye ta semaine. J'étais censé y être pour un week-end. Et on me paye ma semaine. Et là, c'était une semaine où on parlait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui ça? Chez les témoins de Jéhovah, c'est la force agissante de Dieu, quoi. Bon, c'est comme si Jéhovah pousse... Voilà, c'est la force agissante de Dieu. C'est ça le Saint-Esprit, il n'est pas personnifié, quoi. C'est pas une personne. Et là, on me dit que c'est possible d'être baptisé du Saint-Esprit. Je dis, what? C'est incroyable cette histoire, mais je veux, moi. Si Dieu peut venir me toucher là où je suis, mais je suis preneur. Parce que moi, je pensais que... Et vous vous souvenez, j'étais en quête d'une religion. Je cherchais après une religion, quoi. Et là, c'est plus grand que la religion. C'est Dieu qui vient vers toi. La religion, c'est toi qui essayes d'atteindre Dieu. Bon, vous connaissez, hein. Et alors, c'est le 16 octobre 2012. Je suis dans cette pièce tout seul. Une pièce à Jeunesse en Mission. Il est 7 heures du matin. Et quand je me suis levé ce jour-là, je me suis dit, c'est aujourd'hui. Je vais le rencontrer aujourd'hui. J'avais cette foi qui me dépassait, une foi plus grande que moi. Alors je suis dans cette pièce et je ne savais pas quoi lui dire. Je ne sais pas pourquoi j'ai allumé des bougies. J'ai créé une atmosphère. J'ai disposé l'espace pour accueillir sa présence. Et alors, je lui parlais avec mes simples mots, bah, je veux te rencontrer. Quand soudain, les amis, vous connaissez, hein, quand soudain, les amis, l'éternité est venue dans cet endroit. Et quand l'éternité vient te toucher, c'est waouh, extraordinaire. La présence de Dieu était là dans cette pièce. C'était incroyable, un moment vraiment incroyable. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Imaginez. Wow! Alléluia! Quel amour extraordinaire! Ce jour-là, j'ai entendu la voix du Père comme un écho dans mon cœur. Et il me disait, je t'aime, je t'aime. C'était magnifique. Je suis tombé à terre et je pleurais comme un bébé, les amis, dans son amour. Ce jour-là, je n'ai pas cru en Dieu. Parce que croire en Dieu, je croyais en Dieu depuis mon enfance. Et vous savez que la foi, ce n'est pas de croire en Dieu. Parce que les démons eux-mêmes croient en Dieu. Et pourtant, ils tremblent. La foi, c'est de croire dans la bonté de Dieu. Et ce jour-là, j'étais face à la bonté de Dieu. Et la bonté de Dieu a pris possession de moi. Elle m'a envahi, elle m'a saisi. J'ai été littéralement saisi ce jour-là par l'amour de Dieu. Alors, je suis devenu un témoin, je suis témoin de l'amour de Jésus. C'est magnifique. Et depuis maintenant 12-13 ans, je témoigne partout où je peux de son amour. On a une église là ce matin qu'on appelle l'église de rue. Notre association s'appelle Jérusalem AIME, et là ils sont en train de témoigner, de servir des plateaux repas sur la place à Lille, dans l'amphithéâtre à République, et ils sont en train d'aimer les gens, tout simplement, de prier pour eux et de prêcher. Voilà, donc on pense à eux aussi au passage. Voilà, donc la semaine d'après, donc je suis né de nouveau ce jour-là. J'étais rempli du Saint-Esprit dans la foulée, c'est-à-dire dans l'après-midi, j'étais rempli du Saint-Esprit. Je me suis mis à parler dans des langues nouvelles, hein. D'ailleurs, on a entendu monsieur, le frère ici, parler en langue. En tout cas, j'ai été saisi par le Saint-Esprit et cette langue nouvelle est sortie de moi. Incroyable. Et la semaine d'après, bon, j'étais censé rentrer chez moi. Et là, une personne est arrivée en me disant « Non, non, il faut que tu restes, il y a Pierre Kranga qui vient. » Et Pierre Kranga est arrivé pour nous parler du Père. Donc, c'était une semaine sur le Père. Alors, voyez-vous, je suis tombé dans la marmite, hein, dès ma nouvelle naissance. Le Saint-Esprit, cette rencontre avec Jésus et l'amour du Père, c'était extraordinaire. Donc, Pierre Kranga, c'est pour moi, c'est mon père dans la foi. C'est en tout cas un père pour moi dans la foi. C'est l'homme qui a amené un réveil en France dans les années 90. C'était avec Carlos Payan. Bon, enfin, c'est surtout lui qui était missionné. Il était le pasteur de Carlos Payan. Et c'est ce qu'on appelle le réveil de Mâcon, du vin nouveau. Bon, pour certains, j'imagine que vous connaissez. Où on appelle ça également Carlos Payan ou Pierre ? D'accord, ok. Ouais. Donc voilà. Et j'ai découvert Pierre qui nous a parlé de l'amour du Père. Alors j'ai découvert le Père. Ça m'a amené des fondements directement, hein, parce que quand on est jeune converti, au début, on bascule aussi, on peut basculer très facilement dans le légalisme et la religiosité. Et j'ai eu cette grâce de découvrir le Père à travers les enseignements de Pierre Kranga. J'ai pardonné à mon père dans les bras de Pierre. Donc c'était un moment très fort. Pierre s'est mis à genoux devant moi en pleurant. Il m'a demandé pardon au nom de mon père. Et dans un premier temps, j'ai eu envie de lui dévisser la tête. Et je l'ai pris dans mes bras et j'ai libéré ce pardon, ce poids qui me pesait depuis si longtemps. Voilà. Donc ça, c'est un peu mon témoignage, comme ça vous me connaissez un peu plus. Ça va ? Ok. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. C'est Jean-Luc qui a cité ce passage que j'aime beaucoup. Voilà. Donc du coup, on était en réunion de prière il y a une semaine à l'église. Donc c'est le mercredi soir chez nous. Et là, il y a une fille qui s'appelle Betty, une sœur qu'on aime beaucoup, qui a reçu une parole pour moi. Et qui me l'a dit simplement, elle m'a dit, j'ai vu que Dieu te donnait un manteau. Un manteau, voilà, c'est une peau de mouton, elle m'a dit ça comme ça, une peau de mouton qui vient sur toi. Bon, moi, j'ai pensé tout de suite à bon, justement à ce passage dont on va parler un petit peu, Genèse 27, au manteau d'Ésaü, le manteau de la bénédiction du Père, quoi. Et alors j'ai dit « Ouais, amen, c'est cool !» C'est aussi le manteau de la justice, j'aime la justice. J'aime la justice et je prêche la justice. On prêche la justice, la grâce, on parle de l'amour du Père à l'Église. Ce qui fait partie également de la vision de la maison du premier amour, c'est d'équiper. Les enfants de Dieu, de leur mettre le casque du salut. Parce que j'ai écouté trop de messages où on enlève le casque du salut, hein, plutôt que de le mettre. Alors, j'ose croire que je suis sauvé, que Jésus me tient dans sa main, et ce, pour l'éternité. Et nul ne pourra me ravir de la main du Seigneur. Amen. Je suis sauvé. Hein, et des fois, on met des conditions au salut. Et c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends bien souvent dans l'Église du Christ, en fait. Et je suis tellement triste parce que la création ne soupire pas après des orphelins. La création soupire après des fils et des filles. Et un fils, il connaît la justice. Il sait par quel chemin passer. Il est sécurisé dans les bras du Père. Voici le Fils. Donc du coup, ok, elle est là. Voilà, donc on continue. Voilà, on continue. Donc le manteau. Donc le lendemain matin, je me dis tiens, je vais aller m'acheter un manteau. Mais alors j'avais complètement oublié la parole de la veille. Et je me dis tiens, je vais aller m'acheter un manteau. Puis c'était mon anniversaire il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin il y a le 3 novembre. Et j'avais reçu une carte cadeau que j'avais oubliée dans mon manteau. Et puis je retrouve cette carte cadeau, c'est Jules. Et je me dis, bon, bah, je vais aller à Jules, je vais aller voir ce qu'ils font de beau. Et j'arrive à Jules, dans le magasin, et là, je vois un super manteau en peau de mouton. Enfin, c'est du faux, hein. C'est pas du vrai. Mais enfin, super beau manteau, quoi, qui coûte un peu cher, quoi. Et j'avais ma carte cadeau, mais il manquait de l'argent. Puis bon, j'allais utiliser ma carte bleue. Alors, je vais à la caisse et il me demande si j'ai pas un compte à Jules. Je dis, ouais, je pense pas. Et puis, bon, je donne mon adresse mail au cas où. Puis, il me dit, ah, bah, vous avez autant sur votre carte. Je dis, ah, bah, c'est bien ça. Ça complète la carte cadeau. Et puis, j'ai un manteau gratuit, quoi. Un manteau gratuit. Donc, la fille avait été bien inspirée de me prendre cette carte cadeau à Jules. Et là, j'ai ce manteau gratuit. Waouh ! Puis je suis tout content. Puis deux jours après, j'envoie le message à... Je me rappelle de Betty qui m'a parlé de ce manteau-là. Et je le mets sur moi, je me prends en photo devant la glace et puis je lui envoie quoi. Et elle me dit, bah, super, c'est la peau de mouton dont je te parlais. Ouais, c'est incroyable. Et je réalise la bonté du Père en fait, hein. Je pense que c'est vraiment prophétique et je réalise vraiment la bonté du Père. Alors du coup j'ai été me plonger un peu dans les Écritures Je voulais savoir ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir le Père ici ? Ouais, vous voulez le voir ? Yes, amen. Moi aussi, j'ai envie de le voir. Et pourtant, dans les Écritures, c'est écrit qu'on ne peut pas voir sa face et vivre. La bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, on peut voir sa face. Amen. Jésus est venu pour nous révéler son nom. Amen. Et il ne s'agit pas du nom Jéhovah. Il s'agit de ce que représente Yahweh dans son absolu. Amen. Dans sa nature. Et la plus grande révélation que Jésus nous a donnée, c'est que Dieu est un Père. Amen. Et depuis ma conversion, je suis dans cette quête du Père. Je mange le Père. Je me nourris du Père au travers le Fils. Alors, j'aime voir le Père vraiment dans l'Ancien Testament. J'aime le voir dans le Nouveau. Enfin, voilà, je dévore les Écritures. Et j'aime aussi voir Jésus dans l'Ancien Testament. C'est extraordinaire. Y a un passage qui est souvent mal interprété. « Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. » Alors, il y en a qui prennent ce passage et qui jettent tout le monde en enfer. En réalité, ce que ça veut dire, c'est que sans la sanctification, bah, les gens autour de nous ne verront pas le Seigneur au travers de nous. Et nous-mêmes, on ne verra pas le Seigneur au travers des Écritures. On va rater quelque chose. Ce n'est pas qu'on perd le salut, non. On est sauvé, mais on passe à côté de quelque chose. Alors, c'est tellement bon de voir Jésus au travers des Écritures, de l'alpha à l'oméga. Alors, on va aller voir le Père ce matin dans Genèse 27. Genèse 27, je lis à partir du verset 1. Je vais lire un petit peu, je ne vais pas tout lire. Je pense que vous connaissez l'histoire pour la plupart. Donc, Isaac devenait vieux. Ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Voilà, je m'arrête ici. Je voudrais vous parler ce matin d'une des caractéristiques de Dieu, si je puis dire ainsi. Ça fait partie de sa nature, c'est de la faiblesse de Dieu. C'est peut-être un peu bizarre que je dise ça comme ça, la faiblesse de Dieu. Je voulais vraiment vous parler de la faiblesse de Dieu ce matin. Donc, Isaac devient vieux, ses yeux sont affaiblis, donc il ne voit plus. Donc, il est aveugle. Et il appelle Ésaü, son fils aîné. « Mon fils, viens ici. » Ésaü arrive, « Me voici. » Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort, maintenant donc, je te prie, va prendre tes armes, ton carquois, ton arc, va dans les champs, chasse-moi du gibier, viens ici, donne-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Ok, donc on est dans le verset 5. Alors, et Rebecca, elle entend la conversation. Elle entend la conversation. Et puis elle appelle son fils, du coup, Jacob. Jacob, viens ici. J'ai entendu un truc là. Alors, quand on décrit Ésaü, on voit que c'est un garçon qui semble pas très beau, quelqu'un de très velu, très poilu, un rouquin. Bon, les rouquins sont beaux, hein. Dans ma famille, il y a plein de roux. C'est pas parce qu'il est rouquin qu'il est moche, mais bon. Bon, c'est pas précisé, mais... clairement, Ésaü, c'était un peu le fils à papa, et Jacob, c'était un peu le fils à maman. Et je pense que Jacob, finalement, était en grande souffrance, parce que je pense qu'il était, il était en recherche de l'amour du père, de l'approbation de son papa. Seulement, le papa, clairement, avait une préférence pour Ésaü, le premier-né. Ok ? Voilà. Et donc, Isaac veut bénir Ésaü, son fils. Donc la bénédiction, c'est Beraka. Et Beraka, bon, il y aurait tellement de profondeur à décortiquer. Seulement les trois premières lettres, c'est le premier-né. Et la dernière lettre, c'est la grâce. C'est la grâce. Donc quand on a Christ, on a le premier-né, on a la grâce. Amen. On est sous la bénédiction du Père. Amen. Être béni dans la pensée biblique, c'est ça, avoir le premier-né et avoir la grâce. Donc on est tellement béni, les amis. Je suis tellement béni depuis que j'ai rencontré le Seigneur. Waouh, c'est incroyable. Je contemple la bonté, je manifeste la bonté. Je contemple la fidélité, je manifeste la fidélité. Je suis fidèle avec ma femme. J'ai été tellement infidèle avant. Vous vous souvenez de l'histoire? Waouh, c'est magnifique. Donc, là, dans l'histoire, on voit que Rebecca complote. Elle profite, en fait, de la faiblesse de son propre mari. Hein? Et c'est terrible. C'est terrible. C'est une histoire assez terrible, en fait. Hein. Et il y en a beaucoup qui profitent de la faiblesse aujourd'hui des personnes âgées. Moi-même, j'étais commercial avant. Et j'aimais bien les personnes âgées. C'est vrai, hein, j'avais beaucoup de clients. Je méritais la fessée, oui. Non, mais c'est incroyable. Et mon papy, dernièrement, était à l'hôpital. Il était à ça de mourir, en fait. Et j'ai vécu un moment terrible. Parce que vous connaissez un peu les témoins de Jéhovah, ils ne prennent pas les transfusions sanguines. Et je vais à l'hôpital et mon grand-père a failli mourir. Donc il était là sur son lit de mort. Quand je suis rentré dans cette pièce, il était vide. Il était blanc, il avait perdu plein de sang la veille. Et moi, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Alors, j'espérais qu'il n'y ait personne de ma famille pour que je puisse lui parler de Jésus, profiter un petit peu de sa faiblesse. Je rigole. Mais bon, il y avait des membres de ma famille. En fait, ils sont toujours là. Ils étaient là depuis le début des visites jusqu'à la fin des visites. Donc, je me suis dit, bon, ben, loupé. C'est pas encore aujourd'hui que je lui parlerai du Seigneur. Et d'autant plus qu'il est en fin de vie. Et donc, je me suis dit, ben, ma présence va changer les choses, en fait. Et là, je suis dans la pièce et voici que soudain, quatre médecins entrent dans la chambre. Très sérieux, très sérieux. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, ma famille, donc les enfants, les enfants de mon grand-père, sont tous là et font bloc pour pas qu'ils prennent de transfusion sanguine. Et alors moi, j'ai été confondu avec les enfants. Les médecins m'ont interpellé en mode, c'est inadmissible. Et moi, je pouvais rien dire parce que sinon, je me mettais à dos toutes mes oncles et mes tantes, quoi. Donc, j'avais qu'une chose à faire, c'est ferme ta bouche. Alors que j'avais qu'une envie, c'était de dire, hé, les gars, je suis pas témoin de Jéhovah. Non, non, donnez-lui du sang, il en a besoin. Bon, bref. Et donc, parce que mon grand-père, en fait, il est un peu sénile. Quand je le vois, il me pose 30 fois la même question en une demi-heure, quoi. Bon, alors c'est touchant, et puis voilà. Et alors, donc c'est ses propres enfants qui profitent de son état de faiblesse, ainsi que des anciens, des témoins de Jéhovah, qui sont là également pour faire bloc devant les médecins, tout ça. Alors les médecins, ils sont pas bêtes, hein, ils savent très bien que le papy est faible et que les enfants profitent de cet état de faiblesse. Après, est-ce que si mon papy était en pleine forme, il aurait aussi dit non, je pense, personnellement. Mais bon, là, il n'était pas vraiment en état de décider quoi que ce soit. Bref, c'était une petite parenthèse. Entre guillemets, je suis reparti de là. Mon grand-père était toujours sur son lit de mort. Blanc, enfin jaune en fait, hein. C'était vraiment la fin. Et le lendemain, on m'appelle pour me dire il est complètement guéri, super en forme, il rentre chez lui. Bon, j'ai été le voir il y a pas longtemps, c'est plus le même homme. Hein. Il est frais, il rigole, il parle, ouais, c'est incroyable. Donc j'avais dit Saint-Esprit, c'est ma présence qui va changer les choses. Puisque je n'ai pas mon mot à dire, ma présence dans cette pièce d'hôpital va changer les choses. Alors mon papy a été complètement guéri, il n'y a pas eu besoin de transfusion sanguine finalement, le sang de Jésus a suffi. Alléluia, waouh, alléluia, waouh. J'aime tellement la guérison et depuis ma conversion, je prie souvent pour des guérisons. 2 mois après ma conversion, j'ai vu un premier miracle. J'étais dans une conférence et un grand évangéliste très connu m'a dit « Toi, viens ici, tu pries pour lui ». Je ne sais pas quoi dire et puis personne n'a été guéri instantanément, ça m'a propulsé dans la guérison. Voilà, donc des fois je vois aussi des non-guérisons, mais souvent je prends le risque et je vois la gloire de Dieu. Amen. Et là, donc, dans l'histoire, Rebecca complote et puis elle appelle son fils Jacob. Elle devait certainement avoir une préférence pour Jacob, d'autant plus que Jacob était beau. Hein, c'est un peu triste comme histoire hein, pour ces deux enfants. L'un mal aimé de sa maman, l'autre mal aimé de son papa. Et donc, elle fait un stratagème. Hein. Je vais aller chercher une bête. Pendant qu'Ésaü est parti chasser, je vais te donner les meilleurs habits. Donc, voilà, donc c'est écrit là au verset 15. Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient dans la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de peau de chevreau et son cou qui était sans poil. Donc une peau de bête, quoi, pour simuler en fait le vêtement, enfin le toucher d'Ésaü. C'est incroyable. Donc le fils aîné qui devait recevoir la bénédiction, eh bien le fils cadet Jacob s'est substitué au fils aîné. Et donc Jacob arrive un peu honteux, j'imagine, derrière ce vêtement qui ne lui appartient pas. Il vint vers son père. « Mon père !» Et Ésaü dit « Me voici, qui es-tu ? » Il se pose déjà la question, il entend la voix il se dit « Tiens, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père « Bah, je suis Ésaü, ton fils aîné. » Voilà, donc Jacob, l'usurpateur, hein, le menteur, le manipulateur, il a eu un bon maître, hein, sa maman, eh bien, ment frontalement à son papa. Isaac dit à son fils, « Et quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Donc, la bête, parce que la chasse a été plutôt rapide. Et Jacob répondit, « Ben, c'est l'Éternel, ton Dieu, qui l'a fait venir devant moi. » Donc, c'est assez incroyable hein, que Jacob prenne Dieu et qu'il l'inclut dans son mensonge, quoi. J'ai déjà vu ça hein, dans le milieu chrétien. Les personnes qui utilisent Dieu pour manipuler et mentir, c'est assez fou comme histoire. Donc, Isaac, qui n'est pas si bête que ça, en fait, hein, il lui dit, « Approche-toi donc que je te touche. » Alors, Jacob se rapproche, le papa le touche, puis son... Bon, ouais, c'est velu, quoi. Hein. La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. C'est étrange. Alors, est-ce que vous pensez que Isaac s'est vraiment fait avoir jusqu'au bout ? Ou est-ce que quelque part, au fond de lui, il se doutait pas un petit peu que... Bon, on ne sait pas, ce n'est pas écrit. Je pose la question comme ça. Voilà. Voilà, donc Jacob, ce garçon qui, de toute évidence, était une personne qui n'avait pas confiance en lui, pas confiance du tout, hein, qui avait été mal aimé de son papa, qui était un peu comme un orphelin, cherchait l'approbation du père, cherchait la bénédiction du père. Et là, c'est magnifique parce qu'en Isaac, nous pouvons voir le père. Nous pouvons voir le père, donc le père aveugle. Le père aveugle, pas si bête que ça, hein, mais le père qui se doute bien, qui entend la voix de son fils, de Jacob, mais qui, dans cet état de faiblesse, qui ne le reconnaît pas en fait, hein, au toucher. Donc la voix est bien celle de Jacob. Et les mains sont les mains d'Ésaü. Plus loin, Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit « Voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Amen, les amis. Cette histoire est merveilleuse parce qu'on voit le Père et on voit le Christ, hein, n'est-ce pas ? Et on se voit aussi, nous, un petit peu, hein. Jacob, c'est lui qui supplante, c'est l'usurpateur. Et je vous ai parlé de mon passé, hein, combien j'étais un usurpateur moi-même, combien j'ai supplanté les personnes âgées. C'est incroyable. Hein. Et... Alors, c'est marrant parce que quand je me suis converti, lorsque j'ai rencontré le Christ, j'ai été complètement renouvelé de ce côté-là. Et j'ai eu du mal après en tant que commercial. J'ai continué dans le métier. Mais j'ai dit au Saint-Esprit, j'ai dit, je n'utiliserai plus aucune technique commerciale. Parce que je les connaissais toutes, hein, les petites techniques commerciales. Donc je n'utiliserai plus aucune technique commerciale. Et c'est toi qui vas me donner. Eh bien, les amis, j'étais un des meilleurs vendeurs en France. Et je suis devenu le plus nul. je me suis fait virer. Je vendais plus rien. Mais bon, le père voulait m'emmener dans autre chose. Ouais, voilà. Ah là là. Donc, on voit la faiblesse du père, et lorsqu'on est en Christ, eh bien, quelquefois, je pense que dans sa faiblesse, le père reconnaît bien que ce n'est pas tout à fait la voix de Jésus. Hein? Je ne sais pas, vous avez tous les jours la voix de Jésus ou le langage de Jésus? Moi, je l'ai presque tous les jours, sauf quand je me dispute avec mon épouse. Ou... Mais nous sommes revêtus du manteau de Christ, tout comme Jacob s'est revêtu du manteau d'Ésaü, les amis. C'est incroyable comme histoire. J'aime voir le Père dans l'Ancien Testament. J'aime voir Isaac qui était vieux, aveugle. Et j'aime me dire que, oui, le Père voit bien parfois que Samuel... Il ne marche pas tout à fait dans la sanctification et pourtant il m'appelle saint d'ores et déjà. Et parce que je suis saint d'ores et déjà, eh bien j'ai qu'une envie, les amis, c'est de continuer à marcher dans la sainteté, de son amour, de sa présence, simplement. Et parce qu'il est bon et parce que je suis bon en lui, eh bien j'ai qu'une envie, les amis. C'est de le suivre, c'est de suivre le Père dans son amour, dans sa bonté. Moi, le Dieu des témoins de Jéhovah, j'en veux pas. Je préfère partir en courant, fuguer, que d'aller vers un papa qui va mettre la fessée, une bonne dérouillée, et me détruire. Ça, c'est le Dieu des témoins de Jéhovah. Mais la bonté m'attire à lui. La bonté, sa bonté me subjugue, les amis. Je suis subjugué par l'amour de Christ. L'amour de Christ me pousse en avant. Amen. Excusez-moi, je ne veux pas crier trop fort. Waouh, l'amour de Christ me fait faire des folies. Si vous saviez, je me contiens encore un peu là, depuis tout à l'heure. Mais je suis subjugué par l'amour de Dieu, les amis, parce que j'ai rencontré le Père. Dans l'ancienne alliance, on ne pouvait pas voir le Père sous peine de mort. Aujourd'hui, nous pouvons voir sa face. Et sa face, le fait de voir sa face, nous fait vivre. Amen. Waouh ! En Christ, nous avons la vie éternelle. Je suis un usurpateur, j'ai pris la place de Christ. Et c'est ce que veut dire également le prénom de Jacob. Celui qui s'accapare les biens d'autrui en le faisant tomber. Nous avons fait tomber Jésus. Et je discute beaucoup avec des musulmans là sur les réseaux. Je suis sur TikTok. J'utilise toutes les fenêtres, vous savez, pour prêcher l'évangile. Et je me fais agresser. Hein, il y en a qui sont témoins ici. Hein, tous les jours par des musulmans. On me menace. Hein, on a déjà lancé des fatwas sur moi. C'est des jugements divins. On me menace de mort. On va m'égorger comme un cochon. Bon, voilà, c'est les discours que j'entends tous les jours. Hein. Et alors, je discute avec eux, puis je leur prêche l'évangile. Et pour eux, c'est quelque chose d'inconcevable. Inconcevable, cette faiblesse de Dieu. Cette faiblesse, en fait, du Père. Et je ne sais plus pourquoi je parlais des musulmans, mais bon. Je ne sais plus. Bon, en tout cas, je me suis accaparé de la place de Christ. Hein. Le brigand sur la croix, c'est moi. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que les musulmans, en ce moment surtout, hein, une haine viscérale envers Israël. Hein. C'est une haine qui se répand là. J'ai mes entrailles là qui sont depuis 2 mois là. Je pense que vous vivez ça aussi. Et ce qu'on me dit souvent, parce que j'ai un drapeau d'Israël sur mon hashtag, en soutien pour Israël, quoi. Donc souvent on me dit enlève ce drapeau. Puis oui, ils collent leur drapeau palestinien là. Et voilà, on essaie souvent d'accuser Israël. Accuser Israël. C'est Israël qui a crucifié le Christ. Oui, c'est vrai, mais c'est les Romains aussi qui l'ont crucifié. Les Romains qui symbolisent les goïs, les goïms, les nations. Les nations, donc c'est pas les Juifs qui ont crucifié le Christ, c'est ni les nations, c'est nous. C'est l'humanité, en fait. Hein. C'est nous qui avons crucifié le Christ. Donc on a pris le bien d'autrui, on a pris la place du Christ dans sa vie. Et lui, il s'est identifié à notre misère, à notre pauvreté. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors, je voudrais tellement transmettre ça à mes amis musulmans. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Voilà. Et c'est aussi Jacob, celui qui prend par le talon. Donc, il y a eu cette rivalité dès le ventre de la maman. Voilà. Donc, les amis, nous sommes des imposteurs de la foi. Je suis un imposteur de la foi. Je méritais rien. Et c'est simplement ce qu'on appelle la grâce. Et la grâce, j'en mangerai bien tous les matins. C'est pas seulement quand on n'est pas converti qu'on a besoin de grâce. On a besoin de grâce tous les jours. J'ai autant besoin de la grâce que du pire qui soit, le pire violeur, je ne sais pas. J'ai autant besoin de la grâce que cet homme-là. Hein, on a besoin de la grâce chaque jour. Voilà. Donc la vie de Jacob a été chaotique, hein, carrément. Bon, y a tellement de choses à dire dans ce passage. Il y a tellement de trésors. Et la vie de Jacob a été chaotique. À la fin, il y a eu une petite bouffée d'air quand même, hein, quand c'était le retour de son fils, le retour de la bénédiction en Joseph. Donc la petite bouffée d'air de Jacob, et à l'image d'Israël, hein, Israël aussi a une vie, en tout cas un parcours plutôt chaotique, hein, souvent agressé, souvent calomnié, n'est-ce pas ? On prie, je sais que c'est une église ici qui prie pour Israël, hein. Donc ça va, on peut parler d'Israël, tranquille, ça va, je vais pas me prendre une pierre. Voilà. Et donc, voilà. Donc Israël, donc Jacob est devenu Israël, hein. Vous connaissez l'histoire, Jacob est devenu Israël. Et j'aime comment le Père appelle Jacob dans Ésaïe 44, mon Yeshurun. Vous connaissez ce terme, Yeshurun ? Le peuple, c'est-à-dire le peuple juste. Le peuple aimé ou heureux. Voilà. Donc, les amis, je vous parle de la... Salut Ève, à bientôt. Je vous parle de la faiblesse de Dieu. Et il y a un terme, il y a un fruit, en fait, qui nous parle de la faiblesse de Dieu, c'est la bénignité. La bénignité, le fruit de l'esprit, c'est la bénignité. Écoutez bien la signification profonde de ce terme-là, vous savez certainement déjà. C'est une bonté qui confine à la faiblesse. Amen. La bonté du Père, elle confine à la faiblesse. Alors, la bonne disposition du Père a donné son héritage, par exemple, au fils prodigue, hein, celui qui lui demande son héritage. Et le Père, dans sa bénignité, dans sa faiblesse, eh bien, lui dit oui et lui donne cet héritage. Dans sa bonté, dans sa bénignité, le Père reconnaît bien notre voix. Et reconnaît bien que souvent, on ne parle pas tout à fait le même langage que Jésus. Et pourtant, il nous aime autant qu'il aime Jésus. C'est incroyable. Voilà. Alors, vous connaissez l'adage qui dit trop bon, trop... Je ne vais pas le dire. Est-ce que je suis en train de vous parler de ça ? Eh bien, non. 1 Corinthiens 1, 25. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc, le Père, c'est celui qui se laisse dépouiller de ses dons. C'est fort. Le Père, c'est aussi celui qui se laisse vaincre. Dieu, le Père, se laisse vaincre. Et il y a cette histoire de Jacob, poursuivi par son frère Ésaü, qui a la haine, qui a la rage. Et à un moment dans cette histoire, on voit que Jacob se bat avec un homme. Vous connaissez, hein ? Jacob se bat avec un homme, c'est l'Éternel en fait. Et Jacob gagne. Bon, il ressort du combat un petit peu boiteux, hein, un peu humilié quand même. Et je pense qu'on s'est tous battus un jour dans notre vie avec Dieu. Je pense que peut-être on se bat encore parfois. Et souvent on gagne, hein, on gagne, on reçoit certaines bénédictions. On finit humilié quand même, sous la puissante main de Dieu. Et c'est bon, c'est génial. C'est vraiment génial. Parce qu'il y a eu un fruit dans cette rencontre avec Ésaü le lendemain. C'est le fruit de l'amour. Ésaü et Jacob se sont pris l'un dans l'autre et ont pleuré ensemble. Et c'est magnifique. Souvent, il y a cette croyance que les Juifs avaient que Dieu a détesté Ésaü. Et Dieu, en vrai, ce n'est pas celui qui déteste. Et je pense qu'au travers de cette image de réconciliation, le Père restaure l'image d'Ésaü. C'est une image tellement belle, tellement belle. Donc le Père se laisse dépouiller de ses dons, il se laisse vaincre. Et moi, je reconnais ça en tant que papa. Surtout quand je joue au baby-foot avec Sarah, ma fille. Bon, souvent, j'aime bien me mettre des buts à moi-même et fêter son but. Parce que je suis un père. Alors, méchant comme nous sommes en tant que père, à combien plus forte raison le Père est bon, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, Galates 3, 27, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Au revoir, monsieur. Vous avez revêtu Christ. Donc, on a revêtu Christ. Et il y a plein de choses qui s'attachent à ce revêtement. Donc, des promesses de Dieu en lui et le oui. Donc, en Christ, j'ai le oui, j'ai l'approbation totale, les amis. Amen. Je suis aimé totalement. Et vous savez, bien souvent, je réalise encore quelques zones orphelins. On grandit, on est transformé de gloire en gloire en le contemplant. Donc, de temps en temps encore, j'ai réalisé cette petite faille en moi qui a besoin d'être aimé. On a besoin d'être aimé. Vous avez encore besoin d'être aimé, hein. C'est l'amour de Dieu qui nous lave. La repentance, c'est pas une poursuite vers l'amour. La repentance, c'est un fruit de l'amour, en fait. Amen. Voilà. Donc on a les promesses de Dieu, elles sont oui et elles sont amen. Ok ? Donc, juste pour terminer, ça va, je suis pas trop long ? Ça va ? Ok. Pour terminer, les amis, je ne savais pas, hein, que c'était le témoignage, mais bon, je prêche. Hein. J'aime bien prêcher, j'aime tellement parler de l'amour du Père. Je voudrais que vous puissiez le voir, c'est vraiment mon cœur ce matin, c'est que vous puissiez voir le Père au travers du Christ. Il y a une image de la bénignité, une image de la faiblesse de Dieu. On va la contempler encore une fois pour terminer dans l'Ancien Testament, dans Exode 33, verset 17. Vous connaissez l'histoire. Le Père propose à Moïse ce que tu veux et Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire ». Donc il aurait pu demander plein de choses. Il aurait même pu demander directement la terre de Canaan, quoi. Je pense, hein. Il aurait pu y aller puisque c'était vraiment libre accès, quoi. Et lui, ce qu'il a soupiré, c'était de voir la gloire de Dieu. C'est magnifique. Alors Moïse lui dit « Fais-moi voir ta gloire ». Et l'Éternel lui dit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté ». Bon, là, c'est ma fille. Hein. Voilà. On a l'habitude des enfants en église de maison. Des fois, ça fait du bruit. Voilà. Donc, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Amen. Et l'Éternel lui dit, tu ne pourras pas voir ma face. L'homme ne peut voir ma face et vivre. Ok. Tu te tiendras là sur le rocher. Écoutez bien. Tu te tiendras là sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Ok, bon, je vous ai lu ça, vous connaissez tous un peu l'histoire. Alors, où est la vulnérabilité de Dieu dans ça? Et vous savez, c'est dans Pierre, je crois, c'est écrit que les prophètes là, de l'Ancien Testament ont enquêté pour connaître quel était ce mystère. Il y a un mystère auquel on a goûté aujourd'hui, qu'eux, ils n'y ont pas eu droit. Quel est ce mystère caché de tout temps que nous, on connaît aujourd'hui, et encore, on ne le connaît pas encore assez, je crois. Christ en nous, les amis, l'espérance de la gloire. Et où est la bénignité de Dieu dans cette histoire? Eh bien, Moïse fait partie de ces prophètes qui ont entrevu quelque chose, tout comme Ésaïe 53, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ces prophètes-là ont entrevu quelque chose. Ils ont vu une porte semi-ouverte et se sont dit, waouh, ils ont vu poindre la lumière là de l'autre côté du verrou. Et se sont dit, mais ça doit être magnifique là-bas, mais qu'est-ce que c'est? Et là, Moïse a entrevu quelque chose. Il ne pouvait pas voir la face de l'Éternel puisque Christ n'habitait pas en lui, mais il a entrevu quelque chose. Et ce qu'il a pu voir seulement, c'était le dos de l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, alors que Moïse lui demande de voir sa gloire. Alors, gloire égale bonté. Et les amis, je vous pose une question. Quoi de plus glorieux que les meurtrissures de Jésus? Alors j'ose croire, les amis, que ce jour-là, caché dans le creux du rocher, alléluia, waouh, Moïse a vu les meurtrissures de Jésus. Puisque Jésus a été immolé avant la fondation du monde, les amis, ça nous dépasse. Jésus, oui, c'est vrai, n'avait pas encore été crucifié, mais j'ose croire qu'il y a un avant, il a été immolé avant la fondation du monde, et il y a un après. Amen. Alors Moïse a vu les meurtrissures de Jésus. Quelle histoire incroyable, quelle révélation extraordinaire. Nous sommes, les amis, dans le creux du rocher. Le rocher, c'est qui? C'est Christ. C'est Christ. Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est C.S. Lewis qui a écrit Le Monde de Narnia. Cette phrase, j'ai entendu pour la première fois il y a un mois, ça m'a percuté. La colère de Dieu, c'est de l'amour qui saigne. Voilà la bénignité, la faiblesse de Dieu. C'est pour ça, les amis, que j'ai donné ma vie à Jésus, parce que j'ai réalisé cet amour qui me dépasse, cet amour éternel. Quand je vous dis que l'éternité est venue dans la pièce où j'étais, c'est une réalité. L'éternité, c'est Dieu. Ce n'est pas un concept, c'est l'éternité, c'est Dieu. Et la colère de Dieu, c'est de l'amour qui saigne. Alors quand je prêche l'évangile à mes amis musulmans, je voudrais tellement qu'ils puissent voir le Christ, cet amour qui saigne pour le rachat de l'humanité. C'est difficile à concevoir depuis notre orgueil. On a besoin quelquefois, comme Jacob, un petit coup sur la hanche là, déboîté. et je veux garder ce manteau là qu'on m'a offert, là, la bête de mouton, là, le manteau de l'humilité, les amis, parce que ce que je veux, c'est voir le Père. Amen. Donc quand Moïse va dans le trou du rocher pour voir le dos de l'Éternel. Le rocher, c'est une préfiguration de Jésus. Et on peut voir le Père en Jésus sans mourir. Sans mourir. Ça, c'est révolutionnaire. Hein. J'entends encore des chrétiens qui me disent « Non, on ne peut pas voir Dieu. » Si, les amis, on peut voir Dieu aujourd'hui. Peut-être que vous le voyez là, au moment où je vous parle. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Et la création cherche après des fils et des filles. Amen. Il y en a marre de voir les orphelins prêcher dans la rue en condamnant les gens. Et je vois tellement d'évangélisation légaliste. On n'est plus à l'époque de Jean-Baptiste. Hein. Les races de vipères, c'est fini. Hein. Entre deux, Jésus a ouvert ses bras sur la croix. Le sang de Christ a coulé. Il a tracé un chemin avec son sang pour racheter l'humanité. Amen. Il m'a racheté moi, Samuel. Je méritais tellement rien. Wow, ça, c'est l'amour de Jésus, les amis. Et j'aime tellement prêcher l'amour de Jésus. Donc le « montre-nous ta gloire », le « montre-nous ta gloire » de Moïse, ne trouvez pas qu'il ressemble un peu avec l'expression de Philippe « montre-nous le Père ».« Montre-nous le Père et cela nous suffit ». Ce n'est pas tout à fait bête, c'est parce que c'est Pierre Canga qui dit ça. Si on pouvait voir le Père dans son absolu, je pense qu'on deviendrait parfait, parfait dans sa présence, dans la plénitude de sa présence. Voilà. Quelle est cette gloire ? Eh bien, c'est la gloire d'un fils unique en présence de son Père. Tu es fils unique. Tu es fils unique. Tu es fils unique, Claude, n'est-ce pas ? Je suis fils unique. Amen. Et Ésaü aurait dû aimer Isaac aurait dû aimer aussi bien Ésaü que Jacob. Mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Hein? Donc ça, c'est l'amour du Père, et c'est de cette gloire là que Jésus dit: je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Imaginez, hein, Jésus marchait dans la plénitude de la gloire de son Père, et il nous a donné la même gloire. Et je crois qu'on a raté quelque chose durant notre parcours. En tout cas, je sais que on grandit dans la révélation, l'Église grandit vraiment dans la révélation. Et on grandit ensemble, les amis, et je soupire après un réveil personnellement. Un réveil pour les Hauts-de-France. On a reçu cette parole dernièrement. C'est la sœur de Christelle qui a vu ça en rêve, qui a vraiment un réveil d'amour qui va découler depuis les Hauts-de-France. Une terre tellement méprisée, hein. Tellement méprisé. Là, je voyais encore un sondage sur Internet. La manière dont on parle des ch'tis, aïe, 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 ça fait mal. Bon, on habitait à Provins, nous, avant. Et on a déménagé dans le Pas-de-Calais. Alors, je peux vous dire qu'au début, on avait une petite école un peu bourgeoise, quand même. Sarah était bien. Elle était bien là-bas, et soudain, on l'a mis dans l'école à Salomine. Là, il y a certains qui manquaient des dents. Bah ouais, il parlait un peu comme ça. Et là, j'ai dit: oh Seigneur, donne-moi de l'amour. L'amour que je n'ai pas. Et puis, j'ai senti petit à petit l'amour du Saint-Esprit pour eux. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup les Pas-de-Calais. Voilà. Alors. Ma colombe, cantique des cantiques, écoutez bien, ma colombe, toi qui te tiens dans les fentes du rocher. J'ai reçu ce passage là hier, et ça m'a vraiment fait penser à Moïse qui, dans le creux du rocher, protégé par la main de l'Éternel. Donc ma colombe, toi qui te tiens dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est charmante. Waouh, c'est nous, hein, c'est de nous qu'il parle. Hein. Et il nous appelle simplement à lui parler. Juste, il veut nous voir, quoi. Il veut nous voir, avoir cette relation d'amour avec nous. Et chaque soir, je couche Sarah. Elle est dans mes bras. Enfin, des fois, je la couche vite fait. De plus en plus. Hein. Mais je veux dire, avant, quoi. Et j'échange avec elle des mots d'amour, des sourires. Des sourires. Quelquefois, il n'y a pas de mots, c'est juste des sourires, de la joie. Il veut nous voir rire, il veut nous voir sourire. C'est un bon papa. Moi, j'aime pas voir Sarah pleurer. J'aime la voir rire, j'aime la voir sourire. Amen. Voilà. Donc, je voulais vous donner ça pour aujourd'hui et qu'on puisse voir ensemble le Père.